donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, on l'a vu tout à l'heure. On va parler d'amour ce matin, comme bien souvent. Et je voulais commencer par cette courte introduction. Vous savez, pendant des années, j'ai considéré que l'amour, finalement, c'était l'une des vertus chrétiennes. L'amour est une des vertus chrétiennes. Et même depuis que j'ai l'occasion de partager la parole devant vous, pendant des exhortations, je vous disais que c'était l'une des choses les plus importantes, l'amour. Et puis, par expérience, j'ai commencé à connaître l'amour véritable. Et j'espère que vous aussi, vous en êtes à ce point-là. Et c'est alors que j'ai découvert que l'amour n'était pas une des vertus de la vie chrétienne. L'amour, c'est la vie chrétienne. L'amour est la vie chrétienne. C'est pas une des choses les plus importantes, c'est la seule chose qui compte. Alors, quand nous parlons de la vie éternelle, on a toujours tendance, je ne sais pas si vous avez ce même écueil, à toujours parler de sa durée. On se dit, oh, c'est incroyable, moi j'ai 29 ans, je me dis, purée, je double ma vie, je suis à presque 60, si je double encore 120, 240, quelque chose de complètement inimaginable. On essaye de s'imaginer, bon sang, depuis Jésus-Christ, 2000 ans, bah, même ça, c'est pas encore assez long pour décrire la durée de la vie éternelle. Des milliards d'années ne seraient pas suffisants pour décrire la vie éternelle, c'est encore bien plus que ça. Et on a tendance à se focaliser sur la durée quand on parle de la vie éternelle. Et on ne semble jamais considérer finalement sa qualité. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous faire sourire, mais si la vie éternelle n'est qu'une question de durée, et que la vie éternelle n'est qu'une vie qui n'a pas de fin, eh bien alors, l'enfer, finalement, c'est une forme de vie éternelle. Alors, je pense qu'on se trompe quand on ne prend la vie éternelle qu'en considérant sa durée. La qualité de la vie éternelle que Jésus donne, c'est l'amour. Il en est l'oxygène. Il n'y a pas de vie sans l'amour. Et l'amour, d'ailleurs, la parole nous le dit, c'est le seul élément éternel. Vous vous souvenez, 1 Corinthiens chapitre 12, qu'est-ce qui reste? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la foi, lorsque nous allons voir ce en quoi nous croyons, il n'y en aura plus. L'espérance non plus. Lorsque nous serons auprès de Jésus-Christ, il ne restera plus que l'amour. Il n'y aura plus que ça. C'est le seul élément éternel. Les autres éléments, attention, je ne dis pas que ce n'est pas important. Les dons spirituels. Le don de prophétie, c'est-à-dire parler pour Dieu. La sagesse. La connaissance. La lecture de la Bible. La prière. C'est important, mais frères et sœurs, tout ça, ça va avoir une fin. La seule chose qui passera la mort et entrera dans l'éternité sera l'amour. L'amour, c'est la lumière du nouveau royaume. Et on va prendre quelques exemples. La Bible est on ne peut plus claire sur ce fait-là. Quand elle dit que Dieu est lumière et que Dieu est amour, c'est les deux principales caractéristiques pour nous faire comprendre qui est Dieu. Dieu est lumière et Dieu est amour. On va beaucoup prendre des écrits de l'apôtre Jean, on dit que c'est l'apôtre de l'amour. Je ne sais pas si c'est lui qui avait le plus compris l'amour, mais en tout cas, c'est lui qui a le plus écrit sur l'amour. On a lu Jean chapitre 13. Là, nous sommes dans la première épître de Jean, au chapitre 1. Vous voyez, première épître, premier chapitre, donc c'est quand même important. Et on est au verset 7. Il écrit ceci. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, pour moi, enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai toujours considéré, quand on parle de la lumière en la parole, que cette lumière, c'était la connaissance. comme si on était illuminé par une connaissance particulière. Peut-être parce que voilà, il y a plusieurs expressions quand on dit il n'a pas la lumière à tous les étages, bon, ça c'est plutôt péjorativement. Ou bien que la lumière a jailli, effectivement, on prend ça comme une révélation de connaissance et on associe ça à la lumière, on associe pardon, la lumière à une compréhension plus claire des choses. Eh bien, la Bible, ce n'est pas ce qu'elle dit. 1 Jean chapitre 2, oui, ça pourrait être ça, mais chapitre 2, la lumière, c'est l'amour. Voilà ce qui est dit au verset 10, du deuxième chapitre de la première épître de Jean. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait d'où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Alors, qu'est-ce que les ténèbres ? Eh bien, je ne vais pas vous apprendre quelque chose ce matin. Tout simplement, les ténèbres, c'est un manque ou une absence de lumière. On n'a pas besoin et on ne pourrait pas acheter des ténèbres. C'est quelque chose qui n'existe pas. Nous n'avons pas besoin de rentrer tout plein de sacs de ténèbres pour remplir un lieu. Il suffit simplement d'éteindre la lumière et les ténèbres sont là. Ainsi en est-il avec le royaume des ténèbres. Quand on éteint la lumière, on se sent très seul. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, vous pouvez l'avouer ou pas. Le soir, peut-être, et c'est d'ailleurs arrivé aussi ici, quand il y a une panne d'électricité ou que le disjoncteur saute, quand on fait des repas, on met des grille-pains, on met plein d'appareils, paf, ça saute. Et puis on se retrouve dans l'obscurité la plus totale. Ça peut être pu aussi vous arriver chez vous. Panne d'électricité le soir. Et quand on est en réunion ici, la réunion est en cours, et puis paf, soudain les lumières s'éteignent. Et que se passe-t-il alors ? Bah, rien en fait, la situation n'a pas changé, on est toujours ensemble, on est toujours dans ce même lieu, on est toujours à côté de son voisin. Mais pourtant, les épouses disent aussitôt à leur mari « Chérie, tu es là ?» Ben oui, il n'a pas bougé. Hein. Les enfants disent à leurs parents ben, « Papa, maman, donne-moi la main. » Leur situation et nos situations n'ont pas changé. Mais brusquement, les gens se sentaient seuls. Les gens se sentent seuls sans la lumière. Même en compagnie d'autres personnes. Pareil, de jour, on va partout. On va même au cimetière avec des fleurs. Mais on ne va, ou pour les plus courageux peut-être, pas au cimetière de nuit. Pourquoi ? Est-ce que les morts, aussitôt la nuit venue, se réveillent ? Les morts sont aussi morts la nuit que le jour. Mais l'obscurité fait que nous n'avons pas du tout envie de nous retrouver dans cet endroit-là. Les ténèbres, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme et tout ce qui va avec. Le mensonge pour essayer de garder une réputation honorable. S'arranger avec la vérité. Ne pas vouloir servir un frère ou une sœur qui est en demande parce que mon temps est précieux. Les ténèbres, c'est l'égoïsme. La lumière, c'est l'amour, c'est la communion, c'est le partage. Si nous marchons dans la lumière, eh bien, nous jouirons de la communion fraternelle parce que nous nous voyons comme frères et sœurs. Le verset que j'ai cité juste avant dit aussi que pour celui qui aime son frère, il n'y a rien en lui pour le faire trébucher. Celui qui aime son frère, il n'y a rien en lui pour le faire trébucher. Et pourtant, nous chrétiens, allez, avouons-le, on n'arrête pas de trébucher. Hein. Et parfois même, on trébuche les uns sur les autres. Les responsables s'embrouillent entre eux. Les membres, pas mieux. Avec plusieurs, j'ai pu m'embrouiller plusieurs fois, c'est vrai. Et il y a toujours des problèmes, des maladresses, des malentendus. Et parfois, quand l'esprit vient nous convaincre de ces mauvaises choses-là dans nos vies, eh bien, on a besoin d'aller retrouver notre frère et notre sœur et de confesser ce qu'on a fait envers elle, contre elle. Tant nous avons trébuché, nous n'avons pas marché à la lumière de l'amour dans ces cas-là. Si un frère est dans la lumière tandis qu'un autre ne l'est pas, c'est un peu comme les courses, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les Jeux paralympiques, il y a des courses qui se font à deux, les malvoyants sont guidés par un voyant. Et pareillement, si un frère est dans la lumière tandis qu'un autre ne l'est pas, eh bien ils peuvent quand même éviter de trébucher. L'un guidera l'autre. Et si les deux frères sont dans la lumière, combien mieux encore ? Il n'y a plus d'obscurité, plus de ténèbres. Et encore une fois, je vous dis que la lumière, c'est l'amour. Je poursuis avec l'amour, et je vais vous dire ceci, que l'amour, c'est la preuve de notre salut. Il y en a qui pensent que la preuve de ce salut, peut-être essayez avant que je vous donne la réponse, c'est peut-être dans notre manière de nous habiller. Vous dites, bon, non, je vais passer cette idée-là, je suis bien plus évolué que ça. Peut-être vous pensez que la preuve de notre salut réside dans le fait de ne pas fumer ou ne pas boire. Vous dites, oh non, j'ai passé ça. Peut-être que vous pensez que la preuve de votre salut, c'est d'avoir une moralité chrétienne. Pas de relation sexuelle avant le mariage ou en dehors du mariage. Pas de mensonge, pas de coup bas. Peut-être pensez-vous que la preuve de votre salut réside dans le fait de faire ou non telle ou telle chose. Alors, je ne dis pas que toutes ces choses sont sans importance. Elles peuvent en avoir, mais elles ne sont pas aussi importantes que l'amour. Si au cours des années, nous avions insisté autant sur l'amour que sur le fait de ne pas fumer, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, le fait d'avoir une moralité chrétienne, si on avait plus insisté sur l'amour, peut-être que les choses auraient été différentes. La Bible nous dit que c'est l'amour, la preuve de notre salut. Écoutez encore ce que dit Jean. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, déjà il annonce la couleur, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et il connaît. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On a entendu ces choses-là un nombre de fois innombrables. Mais l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Alors, voulez-vous savoir si vous êtes né de Dieu ? Bah, c'est très facile. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean dit aussi, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous connaissons exactement la doctrine du baptême. Non, c'est pas ça qui. C'est pas ça qui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous venons à l'église le dimanche matin et tous les mardis soirs. Non, c'est pas ça qui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est ça qu'il dit. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Alors, parfois les gens, et certains frères et sœurs avec qui je discute, voilà, on se dit, mince, je ne suis pas sûr de mon salut. Comment est-ce que je peux être sûr de mon salut ? J'ai des doutes à ce sujet. Comment puis-je avoir cette assurance de mon salut ? Bah, le critère est un peu plus clair. Aimes-tu ton frère ? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est la réponse. Si vous n'avez pas d'amour pour les frères, vous n'êtes pas sauvés, selon le critère de Jean. C'est la Bible, hein, qui le dit. Vous demeurez même dans la mort. Vous pouvez arborer toutes les bonnes doctrines concernant le baptême, concernant l'eschatologie, excusez-moi pour le terme, la fin du monde, voilà, qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde ? Vous pouvez tout connaître. Les docteurs de la loi connaissaient toute la loi. 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'une cymbale qui résonne. Je peux connaître ma Bible par cœur, je peux connaître toutes les vérités. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et je n'ai rien. Le seul moyen pour vous de savoir si vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est votre amour. Il n'y a que ça qui compte. Je dois même aller plus loin, et j'espère que je ne vais pas vous scandaliser, mais si nous aimions Dieu, si nous aimions, pardon, comme Dieu voudrait que nous aimions, nous n'aurions plus tellement besoin de nous appuyer sur les commandements de Dieu. Il y a plein même de personnes qui avaient compris l'amour, qui l'ont dit. J'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui ont en tête, ah oui, Augustin l'a dit, aime et fais ce que tu veux. Enfin, c'est pas lui qui l'a pondu, ça. Hein. La Bible le dit de façon, je trouve, encore plus complète. Romains chapitre 13, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si vous aimez, vous allez faire tout ce qui est dans la loi. Hein. Pas besoin d'aller étudier plus loin. Par contre, pratiquez l'amour. Ah, vous pouvez me réciter tout le Deutéronome, le Lévitique, avec toutes les lois, si vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'amour, c'est rien. Et par contre, si vous avez l'amour, vous allez faire toutes ces choses. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et même dans l'Ancien Testament, on nous le dit. En Jérémie chapitre 31, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'inscrirai dans leur mémoire. » Ah, non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas la mémoire. « Je l'inscrirai dans leur cœur. » Je l'écrirai sur leur cœur. Quand l'amour est engendré de l'intérieur, il résout toutes sortes de problèmes. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est amour. Ainsi que joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Mais le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour, ainsi que joie, paix, patience, bonté. Mais c'est l'amour, ainsi que, vous avez compris, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi prêchons-nous tant? Parce que nous voulons édifier l'amour et toutes ses autres qualités chez les chrétiens. Mais si l'amour croissait comme il devrait, nous n'aurions pas besoin de tant de sermons. C'est papa qui dit souvent, si un jour on te dit, tu découvres 3 minutes avant de devoir prêcher, que justement c'est toi qui dois prêcher, il faut juste se lever et dire, aimez-vous les uns les autres et d'aller se rasseoir. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. L'amour n'est pas simplement un des éléments de la vie chrétienne. Il en est l'élément par excellence. L'amour est la vie même. Certains, dont je fais partie, se leurrent en recherchant les dons de l'esprit au lieu de son fruit. Je vais m'expliquer. Même si on peut apprécier les dons, nous devons prendre garde à ce qui est l'objet de notre attention. Jésus n'a jamais dit « c'est à leurs dons que vous les reconnaîtrez ». Il a dit, en Matthieu chapitre 7, « c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Les dons ne sont pas un signe de spiritualité parce que les dons chez une personne sont comme les cadeaux sur un arbre de Noël. Et là, je vais prendre un exemple. En Amérique latine, bon, vous savez qu'il y a une pauvreté qui est certaine et il y a aussi un petit peu moins de sapins que par chez nous. Et donc, en Amérique latine, les gens, à Noël, fabriquent eux-mêmes leur arbre de Noël, des bouts de carton récupérés, des fils de fer. Et ils essayent de les arranger le plus joliment possible pour que ça ressemble à un arbre de Noël. Et à cet arbre de briques et de braques, eh bien, ils y suspendent les cadeaux. Nous, c'est plutôt au pied. Eux, ils suspendent sur l'arbre de Noël. Alors, des montres, des bagues, d'autres cadeaux. Et du coup, ces arbres, ils sont attrayants, n'est-ce pas? Même si, sans les cadeaux, c'est rien de plus que petit bricolage d'enfants. Mais avec les cadeaux, ils sont attrayants, même si ce ne sont pas de vrais arbres. Mais quand, en Amérique latine, vous sortez le 26 décembre, tous les arbres de Noël bricolés sont à la poubelle. Il se peut que, hier encore, ils arboraient une superbe montre Omega, ou Rolex, mais aujourd'hui, ils sont à la poubelle. On ne peut donc pas dire grand-chose de l'arbre si on ne regarde qu'à ses dons. Les dons n'indiquent pas de quel genre d'arbre il s'agit. Ce n'est que par son fruit qu'on peut apprécier un arbre. Si les pommes sont bonnes, vous direz que vous avez un bon pommier, et ainsi de suite. Bien entendu, le mieux serait qu'un arbre porte à la fois de bonnes pommes et de montres et porte aussi du coup des montres Rolex. Ça, ce serait le top. Et ça, ce serait le fruit et le don. Mais si cela n'est pas possible, au moins faut-il que le fruit soit bon. On peut excuser une personne qui n'a pas de don, même si la Bible nous dit qu'on en a, mais elle n'a aucune excuse si elle ne porte pas de fruits. Si nous disons au pommier « Pourquoi n'es-tu pas porteur d'une belle bague ?» Le pommier pourrait dire « Excuse-moi, mais personne n'a déposé de bague sur moi. » Mais un pommier sans pomme ne peut pas s'en tirer, parce que les pommes sont le résultat normal de la vie d'un pommier. Nous ne pouvons donc trouver d'excuses si nous n'avons pas d'amour. Si nous sommes remplis de l'esprit, il est naturel que nous sachions aimer. Jésus n'a pas dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez un don de prophétie, ou si vous parlez en langue, ou si vous avez un don de guérison, ou si vous avez un don de présidence. » Vous savez, tous ces choses qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je pense qu'il est grand temps de mettre l'accent là où il faut et là où Dieu l'a mis. Samson avait des dons, des charismes comme on dit parfois. Et pourtant c'était un homme charnel, vous savez comment il a terminé. Saül, le premier roi d'Israël, était charismatique et il prophétisait même, souvenez-vous. Mais c'était un homme charnel. Paul disait que s'il parlait les langues des hommes et des anges, mais n'avait pas l'amour, ce n'était que du bruit. Parler en langue sans l'amour, c'est du bruit. Être devant vous ce matin à enseigner sans l'amour, c'est du bruit. Servir même un frère sans l'amour, c'est du bruit aussi. La prophétie, la capacité de comprendre les mystères spirituels, sans l'amour, ne sont rien. Et même le don de foi sans l'amour n'est rien. Alors, si vous voyez quelqu'un exercer un don, même si c'est ressusciter des morts, ne vous empressez pas de lui courir après. Commencez par vous approcher de l'arbre. Ne regardez pas les montres et les bagues. Regardez sous les feuilles pour voir le fruit. En particulier, en ces jours de confusion, il est important que nous, le peuple de Dieu, puissions agir avec beaucoup de sagesse. Avons-nous réellement pris conscience de l'importance de l'amour? Ce n'est que dans la mesure où nous comprenons cela que nous comprenons également que nous sommes ouverts à ce que Dieu a à nous dire. C'est comme la farine dans le gâteau. Et je terminerai par là. Vous pouvez cuire un gâteau sans œufs. Il paraît que ça existe, sans sucre, mais pas sans farine, impossible. L'amour, c'est la farine de nos vies. L'amour, c'est la vie chrétienne. Beaucoup d'autres choses telles que les dons et la louange sont très belles. Mes frères et sœurs, c'est l'amour qui est la vie. Amen.